Aristote, Politique, livre 7, chapitre 5. Sommaire. Esquisse des diverses magistratures indispensables ou utiles à la cité. Objets auxquels ces magistratures s'appliquent. Le marché, l'entretien des rues et des chemins, etc. Les campagnes, les finances de l'État, les actes publics, l'exécution des sentences judiciaires, les affaires militaires, apurement des comptes publics, présidence de l'Assemblée générale, le culte religieux et civil, surveillance des femmes et des enfants, fin de la théorie sur l'organisation du pouvoir. Paragraphe 1. Une suite naturelle de ce qui précède est de déterminer avec exactitude le nombre des diverses magistratures, leurs attributions et les conditions nécessaires pour les remplir. C'est un sujet que nous avons déjà précédemment touché. D'abord, un État ne saurait être sans certaines magistratures qui lui sont indispensables. Il ne saurait être bien régi sans les magistratures qui assurent le bon ordre et la tranquillité. Ensuite, il y a également nécessité, comme je l'ai déjà dit, que les fonctions soient peu nombreuses dans les petits États et multipliées dans les grands. Et il importe de bien connaître celles qui peuvent être cumulées et celles qui sont incompatibles. Paragraphe 2. En ce qui concerne les besoins indispensables de la cité, le premier objet de surveillance, c'est le marché public, qui doit être sous la direction d'une autorité veillant aux conventions qui s'y passent et à sa bonne tenue. Dans presque toutes les villes, il y a nécessité pour les citoyens de vendre et d'acheter afin de satisfaire leurs mutuels besoins. Et c'est là, peut-être, la plus importante garantie de ce bien-être qu'ont cherché, se semble, les membres de la cité en se réunissant dans une association commune. Paragraphe 3. Un autre objet qui vient après celui-ci et qui y tient de fort près, c'est la conservation des propriétés publiques et particulières. Cette charge comprend la tenue régulière de la cité, l'entretien et la réparation des édifices qui se dégradent et des chemins publics, le règlement des limites pour chaque propriété, afin de prévenir les contestations. En un mot, toutes les matières de même ordre que celles-ci. Ce sont là des fonctions, comme on les appelle ordinairement, de police urbaine. Or, elles sont fort variées, et l'on peut, dans les États bien peuplés, les partager entre plusieurs mains. Ainsi, on établit des architectes spéciaux pour les murailles, des inspecteurs des eaux et fontaines, des surveillants du port. Paragraphe 4. Il est une autre magistrature, analogue à celle-là et aussi nécessaire qu'elle, s'occupant des mêmes soins, mais qui ne régit que les campagnes et l'extérieur de la cité. Les fonctionnaires qui l'exercent sont nommés tantôt inspecteurs des champs, tantôt conservateurs des forêts. Ainsi, voilà déjà pour la cité trois ordres de fonctions indispensables. Une quatrième magistrature, qui ne l'est pas moins, est celle qui doit percevoir les deniers communs, garder le trésor de l'État et répartir les fonds entre les divers chapitres de l'administration publique. Ces fonctionnaires se nomment receveurs et trésoriers. Une autre classe de fonctionnaires est chargée de l'enregistrement des actes passés entre particuliers et des arrêts rendus par les tribunaux. Ce sont eux aussi qui doivent recevoir la déclaration des poursuites et des instances judiciaires. Parfois, cette dernière magistrature se divise en plusieurs autres, mais elle n'en a pas moins toutes les attributions que je viens d'énumérer. Ceux qui la remplissent sont appelés archivistes, greffiers, conservateurs ou désignés par tout autre nom pareil. Paragraphe 5. La magistrature qui vient après celle-ci et qui est la plus nécessaire, mais aussi la plus délicate de toutes, est chargée de l'exécution des condamnations judiciaires, de la poursuite préalable des jugements et de la garde des prisonniers. Ce qui la rend surtout pénible, c'est l'animadversion générale qu'elle soulève. Aussi, quand le profit n'est pas considérable, on ne trouve personne pour la remplir, ou du moins pour la remplir selon toute la sévérité des lois. Elle est cependant indispensable, car il serait bien inutile de rendre la justice si les arrêts ne devaient pas recevoir de suite. Et la société civile n'est pas plus possible sans l'exécution des jugements que sans la justice même qui les rend. Paragraphe 6. Mais il est bon que ces difficiles fonctions n'appartiennent point à une magistrature unique. Il faut les partager entre les membres des divers tribunaux et suivant la nature des actions et des instances judiciaires. En outre, les magistratures qui sont étrangères au jugement pourront se charger parfois de l'exécution. Et dans les causes où figurent des jeunes gens, les exécutions seront confiées de préférence à de jeunes magistrats. Quant aux poursuites qui atteignent des magistrats en place, il faut avoir soin que la magistrature qui exécute soit autre que celle qui a condamné. Que par exemple, les inspecteurs de la ville appliquent les arrêts des inspecteurs du marché, comme les arrêts des premiers seront appliqués par d'autres. Plus l'animadversion excitée contre les agents sera faible, plus l'exécution sera complète. C'est doubler la haine que de remettre aux mêmes mains la condamnation et l'exécution. C'est rendre l'exécration générale que d'étendre à tous les objets les fonctions de juge et d'exécuteur en les laissant toujours aux mêmes individus. Paragraphe 7. Souvent, on distingue les fonctions de geôlier de celles d'exécuteur. Témoin à Athènes, le tribunal des 11. Cette séparation de fonctions est bonne, et l'on doit chercher aussi des moyens adroits pour rendre moins odieux l'emploi de geôlier, qui est tout aussi nécessaire que les autres emplois dont nous avons parlé. Les honnêtes gens repousse cette charge de toute leur force, et il est dangereux de la confier à des hommes corrompus, car il faudrait plutôt les garder eux-mêmes que leur remettre la garde d'autrui. Il importe donc que la magistrature chargée de ses fonctions ne soit ni unique ni perpétuelle. Elles seront données à des jeunes gens, partout où la jeunesse et les gardes de la ville sont organisées militairement. Et diverses magistratures devront s'acquitter tour à tour de ces pénibles soins. Paragraphe 8. Telles sont en première ligne les magistratures qui paraissent les plus nécessaires à la cité. Viennent ensuite d'autres fonctions qui ne sont pas moins indispensables, mais qui sont d'un ordre plus relevé, car elles exigent un mérite éprouvé. Et c'est la confiance seule qui les accorde. Ce sont celles qui concernent la défense de la cité et toutes les affaires militaires. En temps de paix comme en temps de guerre, il faut veiller également à la garde des portes et des murailles et à leur entretien. Il faut enregistrer les citoyens et les distribuer dans les divers corps armés. Paragraphe 9. Les magistratures qui reçoivent toutes ces attributions sont plus ou moins nombreuses selon les localités. Dans les petites villes, un seul fonctionnaire peut veiller à tous ces objets. Les magistrats qui remplissent ces emplois se nomment généraux, ministres de la guerre. De plus, si l'État possède des cavaliers, des hoplites, de l'infanterie légère, des archers, des matelots, chaque troupe a parfois ses fonctionnaires spéciaux, nommés alors chefs des matelots, des cavaliers, des phalanges. Ou bien même, suivant les subdivisions de cette première charge, chef de galère, chef de bataillon, chef de tribu, chef de tel autre corps qui n'est qu'une partie des premiers. Chacune de ces fonctions est une branche de l'administration militaire qui renferme toutes les nuances qu'on vient d'indiquer. Paragraphe 10. Quelques magistratures, et l'on pourrait peut-être dire toutes, maniant souvent les fonds publics, il faut nécessairement que celle qui reçoit et appure les comptes des autres en soit totalement séparée et n'ait exclusivement que ce soin. Les fonctionnaires qui la remplissent se nomment tantôt contrôleur, tantôt examinateur ou vérificateur ou agent du trésor. Au-dessus de ces magistratures et de beaucoup la plus puissante de toutes, car c'est d'elle souvent que dépendent la fixation et la rentrée des impôts, est cette magistrature qui préside l'Assemblée générale dans les États où le peuple est souverain. Il faut en effet des fonctionnaires spéciaux pour convoquer le souverain en Assemblée. Tantôt, on les appelle commissaires préparateurs parce qu'ils préparent les délibérations, tantôt sénateurs, surtout dans les États où le peuple décide en dernier ressort. Telles sont à peu près toutes les magistratures politiques. Paragraphe 11. Reste encore un soin fort différent de tous les précédents. C'est celui qu'on doit au culte des dieux et qu'on remet à des pontifes, à des inspecteurs des choses saintes, qui veillent à l'entretien et à la réparation des temples et des autres objets consacrés aux dieux. Parfois, cette magistrature est unique, et c'est le plus ordinaire dans les petits états. Parfois, elle se partage en plusieurs charges tout à fait distinctes du sacerdoce et confiée à des ordonnateurs des fêtes saintes, à des inspecteurs des temples, à des trésoriers des revenus sacrés. Vient ensuite la magistrature totalement séparée, à qui est confié le soin de tous les sacrifices publics que la loi n'attribue point au pontife et qui ne tirent leur importance que du foyer national. Les magistrats de cette classe se nomment ici archonte, là roi, ailleurs prétane. Paragraphe 12. En résumé, l'on peut dire que les magistratures indispensables à l'État s'appliquent au culte, à la guerre, aux contributions et aux dépenses publiques, au marché, à la police de la ville, des ports et des campagnes, puis aux tribunaux, aux conventions entre particuliers, aux actions judiciaires, à l'exécution des jugements, à la garde des condamnés, à l'examen, à la vérification et à l'apurement des comptes publics, et enfin aux délibérations sur les affaires générales de l'État. Paragraphe 13. C'est surtout dans les cités plus paisibles, et où d'ailleurs l'opulence générale n'empêche pas le bon ordre, qu'on établit des magistratures chargées de surveiller les femmes, les enfants, la tenue des gymnases et d'y assurer l'exécution des lois. On peut citer encore les magistrats chargés de veiller aux jeux solennels, aux fêtes de Bacchus et à tous les objets de cette nature. Quelques-unes de ces magistratures sont évidemment contraires aux principes de la démocratie, par exemple la surveillance des femmes et des enfants. Dans l'impossibilité d'avoir des esclaves, les pauvres sont forcés d'associer à leurs travaux leurs enfants et leurs femmes. Des trois systèmes de magistrature entre lesquels l'élection répartit les fonctions suprêmes de l'État, gardien des lois, commissaire, sénateur. Le premier est aristocratique, le second oligarchique, le troisième, enfin, démocratique. Dans cette esquisse rapide, toutes les fonctions publiques, ou peu s'en faut, ont été passées en revue. Fin du livre 7e.